Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. 21h sur Génération Soccer, c'est la spéciale Ligue 1. Non, c'est pas le débat after, dommage, j'aurais pu refaire une rime. Ce soir, on va parler de Ligue 1, bien sûr, comme le nom de l'émission l'indique, mais également le tirage des barrages. Donc oui, c'est tombé tout à l'heure, la France jouera contre l'Irlande lors des barrages pour la Coupe du Monde 2010. On va aussi parler de la Ligue des Champions, parce qu'il y a une journée de Ligue des Champions demain et après-demain avec Lyon qui se déplace à Liverpool, Bordeaux qui se déplace à Munich, oui c'est bien ça, et Marseille qui se déplace à Zurich. Ah. Donc bonsoir à tous, messieurs, dames, je vous ai bien rappelé le programme. Si vous voulez revoir le programme plus précisément avec un peu plus de détails, regardez sur le player, à la droite du player, il y a un petit encart programme. D'ailleurs, ce player, parlons-en, c'est la première émission footballistique avec le player. Il y a eu la séance de dédicace hier qui a remporté un grand succès avec Yak. Et donc ce soir, c'est la première émission footballistique avec le player, ce magnifique player. Merci beaucoup à Yak pour le codage, pour le player. Voilà, c'est grâce à lui que vous avez droit à un si beau player. Donc voilà, vous pouvez remercier Yak. Bonsoir à tous, il y a Adrien. Salut Adrien. Bonsoir. Il y a aussi Aurélien.
Bonsoir tout le monde.
GG.
Bonsoir à toutes.
Il y a aussi Valentin, la star d'RMC. Apparemment, il fait sa star, donc il veut pas parler.
Salut
Valentin. Salut. Et il y a Valentin.
Salut.
Salut Valentin. Et il y a son copain le morceau, Johan.
Salut.
Salut Johan. Et il y a, j'ai oublié le meilleur pour la fin, Yac B est là.
Ouais, bonsoir. Merci Salut. Pour la petite dédicace, Roméo. Très très de gentil, ça me touche, ça me va droit au cœur.
De rien, de rien. On va tout de suite commencer par l'actu Ligue 1. Donc un petit rappel à vous, chers auditeurs, n'hésitez pas à réagir dans la partie prévue à cet effet dans le topic, partie radio. Donc on commence tout de suite avec l'actu Ligue 1 et avec Fab et Valentin.
Ouais, donc je vais commencer bien par une première actu. Bon, c'est pas une actu Ligue 1, hein, bien sûr, ce soir, c'est plus une actu, on va dire Ligue 1, Ligue des Champions, hein, puisqu'on colle à l'actualité. Donc la première actu, une info importante, bah c'est bien sûr le forfait de Fernando Torres pour la rencontre opposant Liverpool à Lyon donc demain soir, et puis un Steven Gerrard, le capitaine des Reds, qui est incertain. Donc voilà, on va dire une bonne nouvelle, voire peut-être deux, pour l'Olympique Lyonnais qui aura bien besoin de ça pour faire un coup à Anfield demain.
D'accord. Bah, même chose pour Bordeaux, même genre d'information. Cette fois, c'est tout simplement Arjen Robben qui après Franck Ribéry est le deuxième joueur du Bayern qui pourra pas affronter Bordeaux à mercredi. Robben n'était toujours pas remis d'une blessure dont il avait été opéré au début du mois, et donc il fera son retour jeudi prochain à l'entraînement, et donc ce sera trop juste pour la Ligue des Champions.
Voilà, ensuite une petite info, Robert Pires. Donc je pense que vous êtes tous au courant un peu de la polémique en ce moment autour du joueur français de Villarreal, qui soi-disant aurait insulté l'arbitre à la fin de la rencontre contre Jerez, on va dire comme ça, où justement Pires, donc il aurait insulté l'arbitre de fils de pute. Et donc Pires a tenu à s'expliquer aujourd'hui sur sa radio favorite, j'ai l'impression, parce qu'il s'y exprime souvent, RMC. Et donc, selon lui...
Tu as parlé de Génération Soccer.
Voilà. Ouais, c'est clair. Et donc, apparemment, il aurait justement formellement démenti avoir insulté l'arbitre, et selon lui, il se serait juste exprimé en français en disant à deux reprises « putain », ce que l'arbitre aurait donc retranscrit en « fils de pute ». Donc voilà, apparemment, Pires n'a pas insulté l'arbitre, mais il risque pourtant 4 à 5 matchs de suspension, donc affaire à suivre.
D'accord.
Comme on est dans le milieu genre déclaration un petit peu, eh ben on va passer maintenant avec le très célèbre, le fabuleux, l'énorme Charlie Tange, qui est désormais prêté par Liverpool au club de Cavala. On se souvient qu'il avait fait un petit peu défrayé la chronique la saison passée lors des commémorations du drame d'Hillsborough. On l'avait vu rigoler, s'amuser dans le public à côté de Damien Plessis. Et donc Itange qui revient un peu sur ce fait et qui dit en gros que cette histoire c'était que un prétexte et que qu'il a pas finalement pas la, pas l'impression d'avoir fait grand chose. Et après que comme étant donné que qu'il y a beaucoup de supporters qui on disait que les supporters allaient le tuer ou enfin des supporters qui voulaient sa peau. Et ben lui s'exprime sur le milieu du foot par en parlant de ça et dit tout simplement que le milieu du foot c'est de la merde et que qu'aujourd'hui il les voit beaucoup plus clair et qu'on y fait pas forcément attention quand tout se passe bien. Mais quand on te met de côté, on voit que tout est superflu et que trop souvent on fait confiance aux gens alors que c'est un métier de langue de pute.
Oui. Charlie Tange, je suis rebelle. J'ai une petite question de Chris par rapport à ta nouvelle GG qui se demande fils de pute, l'arbitre parlait français?
Ah non, justement l'arbitre parlait pas français et c'est bien là tout le problème parce que selon Robert Pires toujours il lui a juste dit putain à la fin et l'arbitre a cru qu'il lui disait fils de pute en
d'accord.
français. L'arbitre n'était
d'accord.
pas français. Donc en fait, il y a un merci. Malentendu, mais qui pourrait quand même préjudicier à Robert Pires. Voilà.
Alors, et ben voilà, une petite réaction de Chris. Et ben, si vous voulez faire comme Chris, mais à l'oral, si vous voulez réagir oralement, vous n'avez même pas besoin de Skype. Il suffit que vous ayez un téléphone fixe, on vous appelle et vous réagissez en direct dans l'émission. Voilà, juste besoin d'un 01 truc. Et vous pouvez parler avec nous en direct, avec la star d'RMC Valentin, avec moi-même, avec Yac, avec tout le monde. Voilà, donc n'hésitez pas à donner votre numéro par MP à Dan. On reprend donc tout de suite les actus avec GG.
Alors, une autre petite actu, une grosse info Ligue 1, dont tout le monde est certainement au courant, mais c'est bien de le préciser. Guillaume Haro, risque d'être absent au moins 5 semaines, voire jusqu'à la trêve, puisque, donc, entré en jeu hier à la 84e minute, lors de Toulouse-PSG perdu par le Paris Saint-Germain 1-0, excusez-moi je rigole, Oaro a quand même trouvé le temps de se faire une rupture du ligament latéral interne du genou droit pour être précis.
Alors,
donc voilà, 5 semaines de repos forcé pour lui avant d'entamer une période de rééducation. La rééducation, j'ai l'impression que ça le connaît, pourtant je pense pas qu'il soit mal éduqué. Voilà, c'est pour la Black Stat 2 de Génération Soccer.
Ça mériterait même un jingle.
Et puis donc quand il y en a un qui part en infirmerie, il y en a un qui revient dans sa coéquipier de Haro, c'est Mickaël Landreau qui s'était blessé cet été en préparation avec Lille et qui ont prédisé une absence de 6 mois au moins et qui là 3 mois après déjà de retour sur les terrains puisqu'il a rejoué avec la réserve du LOSC ce week-end. Et bon, le LOSC évidemment a perdu contre la fabuleuse équipe de Hazebrouck. Et donc c'est ça veut dire que ça voudrait dire que Mickaël Landreau pourrait peut-être très vite retrouver le chemin de la oui. Ligue 1 au dépourvu de l'extraordinaire Ludovic Butel qui a fait un très très bon début de saison jusque là avec notamment des spéciales Butel genre j'encaisse le but entre mes mains ou du Butel et donc Landreau pourrait très vite reprendre sa place.
Ah ben, merci tous les deux. Merci
à voilà, j'ai juste une dernière information. C'est dommage que Anne ne soit pas là. Je sais pas si elle nous rejoindra plus tard. Une information qui est relayée par nos confrères, il faut le dire, de Tutto Sport. Donc voilà, un quotidien italien. Selon lui, qui
pas
aurait
forcément
justement.
Le meilleur,
pas forcément le meilleur. C'est surtout celui, j'ai l'impression, qui est spécialisé dans les rumeurs de transfert, souvent qui ne concrétisent pas. Puisque je crois que pendant la période de mercato estival, ils annonçaient François Clerc à la Juventus de Turin. Et ben là, ce serait André-Pierre Gignac qui pourrait prendre le chemin de la Juventus de Turin. En tout cas, les dirigeants de la Vieille Dame seraient intéressés pour s'attacher ses services, en sachant qu'apparemment Gignac est en concurrence avec Edin Dzeko. Donc voilà, sacrée concurrence entre les deux.
Ok.
Et puis une petite dernière quand même pour vous dire que le PSG, l'OM PSG de dimanche prochain, dont on va sûrement faire une petite émission spéciale sur Génération Soccer, et ben ce sera arbitré par Laurent Duhamel. Reste à voir le nombre d'erreurs qu'il va pouvoir faire dimanche prochain. On comptera peut-être. Allez, si on conclura là-dessus, cette petite page Actu Ligue.
D'accord, merci. Donc voilà, t'as bien fait de le rappeler. Dimanche, émission spéciale.
Duhamel qui est juste spécialisé pour l'instant dans l'arrêt de match. Hein. Donc, qui avait déjà interrompu le Nice Montpellier quand il y avait la bombe agricole, et c'était lui aussi qui avait interrompu le Monaco PSG.
C'est vrai. Merci de le signaler. Et donc,
faudrait pas qu'ils confondent des petits nuages avec des fumigènes.
Oui. Surtout que dans un PSGOM, dans un OM
donc, PSG. Taisez-vous, messieurs. J'étais en train de dire que dimanche.
Non, mais c'est vrai, t'as raison, Valentin.
Dimanche à 20h15 sur Génération Soccers, l'émission spéciale pour le classique de cette Ligue 1 au MPSG. On viendra avec des intervenants marseillais et parisiens. Voilà. Donc, venez, ça risque d'être beau. Et même si, voilà, n'hésitez pas à postuler si vous jamais vous voulez intervenir. Voilà, je serai là. Adrien, tu seras sûrement là?
Sûr.
Ah, bah voilà, il y aura Adrien, voilà, il y aura du beau monde. Et donc, soyez à l'écoute.
Et sinon, si je peux rajouter au niveau des infos Ligue 1,
vas-y.
Il y a aussi Sochaux qui a quelques pistes pour remplacer Davis qui a été accidenté en voiture. Mmh. Et ils sont sur la piste de Maoulida de Lens, de Mirala de Saint-Etienne ou de Pancrate qui est actuellement libre.
Que du grand joueur, quoi. Hein.
Ah, ils préfèrent la piste Pancrate qui était déjà à Sochaux dans la saison 2007-2008.
Qui avait fait d'ailleurs fureur.
Ah non, mince, il est déjà à Boulogne, pardon.
D'accord, merci. Pourquoi pas un retour de Mansour bout à bout en France. Donc voilà, merci Johan. Voilà, pour la première intervention de Johan. On va pouvoir tout de suite passer à la suite du programme. Vous voyez ça sur le beau player dossier sur Lorient. Eh bien oui, on va commencer par Lorient. Après, on va parler de du Mans avec Johan qui est là. Et on va commencer par Lorient. Lorient, équipe, une des équipes surprises de ces buts de saison qui plaît beaucoup, qui évolue vraiment beau. C'est une équipe jolie à voir jouer, comme à son habitude. Hein, on connaît la réputation de cette équipe avec un bon recrutement. Et voilà, on a Aurélien alias Jondala sur le forum pour ceux qui ne connaissent pas son prénom. Eh ben, qui va nous parler un peu de cette équipe, de ces merlus, de cette équipe bretonne.
Tout à fait. De cette équipe qui met aux anges depuis le début de la saison. Comme tu disais, Roméo, moi, j'en reviens pas, quoi. Depuis le début de la saison, je suis dans un monde féerique. Enfin, on vit une saison de rêve pour l'instant, c'est magique. Je veux dire, au début de saison, quand on a perdu Avriel, Siani, et Jallet, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous auraient vu là, quoi. Je pense qu'il y en a beaucoup qui se sont dit « Ah, enfin, les petits merlus qui font chier en Ligue 1, ils vont descendre en Ligue 2. » Parce qu'il faut le dire, on n'est pas aimé, ni par la presse, ni par les médias. Alors, pour une fois qu'on fait quelque chose de bien, ça fait du bien qu'on parle de nous. Bon, on a eu que 5 lignes dans l'équipe ce matin. Mais au moins, on est dans l'équipe, ce qui n'était pas franchement le cas avant. Donc, c'est bravo. Vrai. Alors, ouais, une grande satisfaction. Je veux dire, ça fait des années qu'on produit, enfin depuis qu'on est en Ligue 1, qu'on produit avec notre très grand entraîneur Christian Gourcuff, un des plus beaux jeux de Ligue 1. Ça payait pas forcément parce qu'on n'avait pas forcément les joueurs pour, ni forcément des équipes en face qui étaient à notre portée. Enfin ça paye, après des années de pratique. On a un Gourcuff qui est aux anges, un effectif qui semble... on n'a jamais eu un effectif comme ça, je veux dire... il y avait un Diarra qui venait de Tours, on n'attendait rien de lui, il se révèle être un joueur formidable, du coup il met un Monte Rubio sur le banc, qui dès qu'il rentre est formidable. On a une attaque Gamero Veyurea qui a un niveau international, avec notamment un Gamero qui porte Athletic. On a des Argentins qui se révèlent être Sosa et Penalba, des joueurs techniques comme on n'a jamais vu à Lorient. Je veux dire, Penalba, c'est la première fois qu'on a un joueur comme ça. On a Mvemba qui a été conseillé par Johan Gourcuff à son père, qui s'avère être, je veux dire, trois fois plus doué qu'un Avriel. Je veux dire, on a
niveau
potentiel. Moi, il m'a déjà fait oublier Avriel. J'ai adoré Avriel, mais Mvemba, c'est magnifique. Et puis voilà, je m'enflamme un peu, mais je veux dire, voilà, je profite parce que je sais que ça va pas durer, comme dit Adrien. Parce que là, ça va être l'hiver et du coup, ils vont nous casser les jambes et tout. On va pas pouvoir pratiquer un jeu de balle comme on fait. Mais actuellement, on pratique le plus beau jeu de Ligue 1. C'est beau à voir. C'est malheureux. Personne n'en parle. Enfin,
si, nous.
À tous les auditeurs, si vous voulez regarder des beaux foot en Ligue 1, regardez Lorient. C'est en ce moment, c'est là que c'est beau.
Oh,
parce qu'on n'est pas assez réaliste devant, mais regardez Lorient. Voilà.
Merci pour ce beau plaidoyer. Fabien, tu voulais réagir.
Ouais, bah justement, bon après tu l'as un peu dit, mais quand tu disais qu'il y avait que 5 lignes dans l'équipe ce matin, t'avais quand même le droit, à juste ce que t'as également dit de la part de Daniel Riolo sur son blog, qui disait que Lorient c'était le plus beau jeu de Ligue 1 en ce moment. Donc voilà, t'avais
quand même... Oui, je sais,
ça rattrapait.
Ouais, mais c'est une ligne.
Ouais, voilà, ça fait une ligne.
Je veux dire, ça fait des années que RMC, ils nous font des émissions pourries. Oui, remettre du beau jeu en Ligue 1 et tout. Enfin, il y a une équipe qui pratique, on n'en parle pas, quoi. C'est honteux. Non, mais je veux dire, ça a été l'affaire Comboiré. D'ailleurs, Comboiré qui fait des excellents résultats, comme tout le monde peut le voir. Tout le monde a été les médias du côté de Comboiré, etc. Et je veux dire, on prend le beau jeu en Ligue 1. Et dès qu'il y a une équipe qui le fait, on l'enterre. Alors, voilà, merci. Heureusement qu'il y a Montpellier qui est vanté, parce que sinon, voilà, je veux dire, ça fait des années qu'on veut nous voir en Ligue 2. Ça fait des années qu'on lit les médias, t'as l'impression à Lorient, oui, ils sont sympathiques, les petits merlus, les petits bretons avec leurs crêpes et tout, mais ce serait bien qu'ils descendent, parce que voilà, avec leur petit stade pourri et tout, ils ont pas le niveau pour la Ligue 1, et ben voilà quoi, on est devant des équipes comme Paris, comme Rennes, qui ont des moyens, et nous on est devant nous avec nos petits moyens, nos petits trucs, on a recruté pour 3,5 millions, et on est devant tout le monde, et on est à égalité de points avec l'OM qui a recruté pour je ne sais pas combien de millions. Donc voilà, et ça fait du bien quoi, et encore on parle pas de nous. Donc voilà, et dès qu'on va descendre, ça va être ah bah voilà, alors les petits Lorientais, on l'avait vu hein, ils étaient pas prêts pour tenir le coup. Donc voilà. Enfin, c'était mon petit coup de gueule.
petit, on va dire ça comme ça. Effectivement, beau début de saison de Lorient, je suis d'accord. Enfin.
Ouais, non mais ça c'est clair que je suis tout à fait d'accord avec toi Aurélien sur le fait que les médias souvent un peu à critiquer Lorient et à dire c'est un peu le petit poussé de la Ligue 1, mais pourtant ça fait quand même plusieurs saisons que ça récidive et qu'à Lorient ça joue pas mal. Et c'est clair que moi j'ai eu l'occasion de voir à plusieurs reprises Lorient, notamment j'avais vu un Lorient PSG où le PSG avait arraché un point, mais franchement un peu chanceux. Et j'avais vraiment vu ouais, à Lorient un Sigana Madiara que j'avais jamais vu jouer, franchement qui joue super bien, Mvuemba aussi qui se débrouille pas mal, et surtout un Vairua qui est revenu de blessure, j'ai l'impression qu'il est encore plus fort qu'avant quoi. C'était pas ce que
t'en penses, Vairua,
il est transformé depuis le début de la saison quoi.
Ah, c'est, je l'ai jamais vu comme ça perso, il est impressionnant, et puis avec Gamero à ses côtés, je veux dire, Vairua Gamero actuellement c'est une des meilleures doublettes offensives de Ligue 1, parce qu'entre un Vairua qui retrouve un niveau technique comme jamais on a vu ça, et en tout cas depuis Nantes, et puis un Gamero qui est tout simplement éblouissant. Hier il livre un match, normalement il était pas censé jouer, il doit être à 50% physiquement prêt quoi, et il joue un match et il est éblouissant. Alors qu'est-ce que ça va être à 100% quoi?
Oui, c'est énorme. Ouais, c'est vrai.
Ouais, c'est il a 3 pas difficiles pour 4 buts quoi.
Ouais, c'est clair. Et surtout, ils sont parfaitement dans le collectif lorientais. Et j'avais simplement une petite question. C'est pas du tout pour écourter, hein, mais c'est juste une petite question. Sur Monterrubio, comment est-ce que t'as des échos? Comment il le prend, le fait qu'il soit un petit peu, on va dire, poussé sur le banc, alors qu'il a quand même, il avait quand même réalisé un début de saison, franchement pas mal, quoi.
Bah apparemment très bien, puisque il est venu au club. Il l'a dit lui-même dans une interview dans France Football. Qui était d'ailleurs bref. Alors, il a dit qu'il était venu au club pour passer une dernière saison ou deux tranquille en Bretagne, prendre du plaisir dans le jeu, et actuellement c'est ce qu'il prend du plaisir dans le jeu, donc il le vit très bien, ce qui est parfait. C'est ce qui est bien à Lorient, c'est que les remplaçants c'est des mecs qui viennent de nulle part et tout, qui du coup ça crée pas de problème entre les lignes. Peut-être le seul joueur dans le banc qui pourrait poser polémique c'est Fanchon, et encore il a sa chance, donc Non, l'effectif vit bien. Franchement, Gourcuff, il a jamais été, de ce qu'on entend les échos de l'entraînement, Gourcuff n'a jamais été aussi heureux, jamais aussi souriant. Le groupe est homogène, contrairement à l'an dernier où il y avait eu quelques problèmes, etc., avec les joueurs qui voulaient partir, non, cette année. Genre, par exemple, Saifi, alors que cette année, pas du tout, quoi.
Et juste une dernière question. Moi aussi, j'avais eu l'occasion, j'ai vu Lorient à plusieurs reprises, et à chaque fois, j'ai un mec, Sylvain Marchal. Je crois que c'est ça, c'est Marchal en défense centrale. Franchement, je le trouve énorme, quoi. On en parle pas aussi de ce mec-là, mais franchement, je le trouve impérialement.
Tu parles de mon petit chouchou de la défense centrale, qui nous a beaucoup manqué l'an dernier, étant blessé quasiment toute la saison, ce qui a fait qu'on a beaucoup parlé de Siani et pas beaucoup de Marchal, mais notre capitaine étant de retour cette saison, on voit qu'avec un très bon défenseur à ses côtés, qui est Koscielny, ça fait une des meilleures défenses centrales de Ligue 1. Je veux dire, on n'a rien à envier à Enzo Diawara, à Sako, Sami Traoré ou Zoumana Kamara.
Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est clair. Ouais. La défense Marchal-Koscielny, et en plus Koscielny qui apporte offensivement aussi, donc franchement, ça va
être... Il faut savoir que je rajoute, Marchal a été, je veux dire, en France, il est assez connu, mais il y a déjà eu des recruteurs du FC Séville pour aller voir Marchal évoluer, hein, avant sa blessure, quand il était à 100% il y a un an et demi. Je sais pas ce qu'il en a actuellement, mais il a déjà été suivi par des gros clubs.
C'est vrai, il a déjà été suivi. Je confirme.
Ouais.
Mais.
Paris, un moment aussi, Marchal.
Oui, Paris était sur Marchal, effectivement. Adrien,
Paris, si on liste tous les clubs sur lesquels, si on liste tous les joueurs sur lesquels Paris était, franchement, on s'arrêterait pas.
Ouais, non, ouais. Juste, j'avais une question, Aurélien. À ton avis, qu'est-ce qui a changé pour, par rapport à l'année dernière, pour que ça marche comme ça, parce que, comme tu avais dit, vous avez perdu Briel, Jallet, deux joueurs solides de Lorient, et qu'est-ce qui a changé par rapport à l'année dernière pour que ça marche comme ça?
Bah, à mon avis, déjà, juste pour ta question, moi, la plus grosse perte au niveau de l'équipe, c'était plutôt Siani, parce que comme on a pu voir l'an dernier, quand on a marqué des points importants, quand l'équipe arrivait pas à produire son jeu, c'était grâce à Siani qui était toujours là en défense pour s'imposer. Donc, Avriel, ça fait l'année dernière, sa saison était bonne, mais sans plus par rapport à celle il y a deux ans. Et sinon, moi, mon explication, je pense qu'elle est tout simple, c'est qu'il y avait des joueurs comme Avriel ou Jallet, ils en avaient plus grand chose à faire du club. En tout cas, l'effectif ne vivait pas assez bien pour se donner à 100%. Il y avait des joueurs qui voulaient partir. C'était un effectif en fin de durée. D'ailleurs, Christian Gourcuff l'a dit lui-même. Et du coup, là, on a renouvelé presque totalement. Il y a des cadres, les cadres qui sont restés. Marshall, c'est le capitaine. Morel, ça a été contre son gré, mais ça fait des années qu'il est à Lorient, donc il n'y a aucun problème. Il est adapté. Et puis sinon, c'était des cadres qui avait aucun souci et tout, donc ceux qui posaient un problème dans la gestion de l'effectif sont partis, et qui avaient, et maintenant on a eu un gros coup de chance. La cellule, de toute façon, a toujours, c'est pas un coup de chance maintenant, mais a fait un très bon recrutement, et les joueurs se sont adaptés parfaitement et correspondaient à l'état d'esprit que voulait Gourcuff. Ouais.
Je pense
qu'il y a un état d'esprit irréprochable qui fait que...
J'ai un petit coup de gueule à dire, à faire passer. Mais que fait Lorient Ligue 1? Mais ils sont trop forts, ils sont beaucoup trop forts pour la Ligue 1. Voilà. On devrait créer une division spéciale pour Lorient, qui joue tout seul. Non, je plaisante. J'exagère un peu, mais c'est vrai qu'il faut signaler ce bon début de saison de Lorient. Et comme tu l'as dit, on en reparle pas dans les différents médias, que ce soit RMC. Ben voilà.
C'est ça.
Encore une raison.
Et je voulais en parler.
Génération Soccer.
Et je voulais en parler ce soir parce que je pense que ça va bientôt se terminer, quoi. L'hiver arrivant et tout, ça va être difficile de pratiquer notre jeu sur des terrains gelés ou comme des terrains comme hier à Toulouse. Donc,
Ah, ils sont pas encore gelés en Bretagne, les terrains?
Non. Il faisait très grand soleil en Bretagne, je ne sais pas si tu as vu dimanche.
C'est vrai que tu parlais de Toulouse, le terrain était vraiment abominable hier.
C'est clair.
Ah ouais, c'est... Voilà.
Ouais. Voilà pour mais c'est pas pour la première fois à Toulouse, hein. Ça veut dire... Ça peut être une polémique du soir, mais c'est pas la première fois que ça arrive à Toulouse.
Ah, vous as-tu encore passé un petit coup de gueule?
Non, parce que moi j'ai rien à dire. Je veux dire, la pelouse de Moustoir, avant qu'on la change cet été, était aussi catastrophique.
Et d'ailleurs, des nouvelles de la tribune...
Sud. Et ben, voilà, normalement, elle devrait peut-être ouvrir pour Marseille, Lorient-Marseille le 8 décembre.
Comme c'est étonnant.
Voilà. Puisque Marseille, chaque fois que Marseille vient, ça fait la plus grosse affluence du Moustoir, donc,
ouais. Eh ben, ok. Ah, bah, ça fera plaisir de plus voir les infâmes murs rouges, là, sur le côté droit.
Tout à fait. Ah, oui. Et c'est puis, je tiens à préciser qu'après la tribune sud, c'est la tribune du Puy, la tribune d'honneur qui va être rénovée, donc, Lorient vers la route de l'évolution avec un nouveau centre formation, un nouveau centre d'entraînement et puis un nouveau stade. Enfin, un stade rénové, quoi. Donc, tout va bien.
Eh ben, Lorient,
on en profite. Ça va pas durer, du coup, on en profite. Me verrez peut-être moins optimiste dans une semaine ou deux.
L'objectif, c'est à terme, dans quelques années, intégrer l'Europe.
Le maintien, très bien. Moi, qu'on reste longtemps en Ligue 1, ils disent 15e tous les ans, très bien. Mais, notre président a pour but, oui, de jouer l'Europe de temps en temps, mais...
Ah non, mais vu l'exceptionnelle évolution là de Lorient ces dernières années, je pense que poursuivre dans cette lancée, bien sûr, dans quelques années, ils pourront batailler. Bah là déjà, ils sont cinquième, c'est ça.
Si je me trompe. Sixième. Exéco avec l'OM.
Voilà, cinquième. D'accord. Bah voilà, déjà. Voilà. En tout cas, il y a de belles équipes sur le papier, un bon entraîneur, donc pourquoi pas.
Mais là, tu soulèves un point noir. Ouais. Là, tu soulèves un point noir. C'est est-ce que Christian Gourcuff va prolonger à la fin de la saison?
C'est vrai qu'il...
Il a quand même été promu manager de Lorient en plus, donc c'était plutôt pour s'inscrire dans la durée, je pense. Donc je sais pas. Mais...
Oui, mais ça veut rien dire, ça, parce que je veux dire, on verra bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'apparemment, Christian Gourcuff ne s'est jamais aussi bien plu à Lorient depuis qu'il a commencé à Lorient. Donc c'est une bonne chose pour une future prolongation.
Moi, si j'aurais juste une petite question, c'est justement... Si Christian Gourcuff s'en va à la fin de la saison, est-ce que tu penses qu'il y en a qui sont là pour reprendre le flambeau et pour justement perpétuer un peu ce style à la lorientaise, comme il y avait peut-être un style à la nantaise? Parce que c'est vraiment ça, quoi. S'il s'en va, j'ai l'impression que l'identité de Lorient, en tout cas du jeu actuel de Lorient, ça irait aussi avec lui, quoi.
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Lorient, toutes les équipes jouent avec le même style de jeu que l'équipe A. Et que Christian Gourcuff a bien fait la chose en encadrant son staff, puisque tous les personnes du staff sont des anciens joueurs ou des personnes qui ont collaboré avec lui, donc toutes des personnes qui connaissent son système de jeu. Donc après, ce qu'il faut voir, quand Gourcuff va partir, ce sera inquiétant parce qu'il n'y aura plus sa personnalité, le personnage. Et après, il faut voir qui va emmener dans le staff, parce que si le staff reste le même, on peut se dire qu'avec ou Sylvain Ripoll, son adjoint, qui passe entraîneur titulaire, ou par exemple un Lemignan qui pareil est dans la même optique, etc. Il y aura peut-être un suivi, quoi. Il faut voir comment le staff va changer après le départ de Christian Gourcuff. S'il part, okay. Il faut pas qu'il parte.
Eh ben Audrey, hein, toi qui te plaignais que Lorient soit pas médiatisé, je te promets de parler de Lorient, de faire un petit point.
Merci.
Sur Lorient.
Mais c'était très bien d'avoir offert ce soir 20 minutes.
Ah mais t'en auras d'autres.
Merci.
Que ce soit le samedi, là. Et ben
non,
voilà.
On pas les comme ça, quoi.
Comment?
T'inquiète
comment
pas, la relégation, on en parlera avec toi.
D'accord, merci.
Non, franchement, c'est impossible que Lorient descende cette saison, quoi. Franchement, avec le jeu qu'ils proposent, même si tu parles de l'hiver à passer, même s'il y a quelques joueurs qui sont blessés, franchement, ça m'étonnerait quand même. Hein.
Même si oui, Gourcuff est en instance de divorce, voilà, ça devrait pas trop. Voilà, on va
j'espère
pouvoir.
Que vous avez raison.
on espère aussi. On va pouvoir tout de suite passer pas au sujet suivant, mais à l'autre partie de ce petit thème sur les dossiers. On va pouvoir parler du Mans qui est très très mal en ce moment.
Oui, donc le Mans. Pourtant.
Voilà. Vas-y, excuse-moi, Yoann.
Oui. Donc le Mans, pourtant, dans la saison qui est censée nous mener vers le nouveau stade qui va arriver la saison prochaine, le MM Arena. C'est un bilan un peu contrasté quand même, parce que Le Mans se retrouve encore 17e, alors que pourtant au début de saison, en faisant un match nul contre Lyon, ça pouvait faire espérer, mais après, avec un déplacement à Paris, où Le Mans a pris une grosse défaite 3-1, avec Stéphane Cessignon, ancien Manceau, qui s'est fait plaisir face à ses anciens coéquipiers, on peut dire que pour le moment c'est un peu difficile, avec la perte aussi de joueurs comme Jacques Pelé, qui est parti sur Toulouse, ou encore Mathieu Coutadeur qui est parti sur Monaco. C'est certes, il y a eu la Coupe de la Ligue qui a remonté un peu le moral des joueurs et ensuite une victoire contre Lens, mais après comme hier à Boulogne, c'est un match qu'on doit pas perdre. Le Mans, ils perdent 2 points en se prenant un but à la 93e, c'est des points perdus inutilement.
C'est clair.
Après il y a des matchs aussi comme par exemple à Lorient où Le Mans a pas été verni avec notamment un carton rouge qui a été sorti injustement sur une main imaginaire de Guillaume Loriot. Et le plus rageant, c'est que c'est monsieur l'arbitre qui vient dès la fin du match s'excuser auprès du joueur en sifflant qu'il n'y avait pas main en fait. Donc c'est enfin, encore des points de perdu et au final Le Mans se retrouve 17e à cette période du championnat.
Oui. Ça va.
Ouais, moi j'avais plusieurs remarques à te faire. C'est clair que je voulais revenir sur le match que j'avais livé Sochaux Le Mans et donc pour revenir c'est clair que sur la main de Loriot, il n'y avait pas du tout une main de Loriot, mais j'avais quand même vu un peu le match et enfin j'avais vu ce match là et c'était pas très glorieux du côté du Mans. C'est vrai qu'ils ont fait depuis le début de la saison d'autres prestations meilleures, je crois que contre Marseille c'était quand même un peu mieux.
Ouais, mais il y a quand même eu la défaite 2-1 contre Marseille.
Ouais, c'était la défaite, mais je veux dire, dans le jeu, ils proposaient beaucoup plus. Et puis là, c'est clair que perdre des points contre Boulogne, c'est ça qui est un peu plus inquiétant. Parce que Boulogne, c'est, je dis pas que c'est un candidat à la relégation, parce que je voudrais pas faire de mal au Mans, mais bon, c'est presque ça. Et d'abandonner deux points face à Boulogne, c'est con, quoi. Ma dernière remarque, avant de te laisser juste répondre sur ce point-là, c'est une autre remarque, c'est Corchia. J'ai l'impression que ce joueur de match en match, il est en train de prendre une dimension assez énorme. En plus, là, il a été, je crois, appelé avec les espoirs. Il a joué, je crois, contre la Belgique. Et franchement, ce joueur, c'est une petite pépite. Donc, j'espère que il va bien être exploité par le.
Pour le moment, il a pas trop été exploité depuis le début de saison. Mais là, c'est vrai que depuis deux matchs, il a été mis sur le terrain. Et on voit comme hier à Boulogne, il a fait un match exceptionnel quand même. Avec Roland Lama qui rentre et qui est le buteur du match. Certes, c'est un but un peu chanceux. mais il donne quand même l'avantage au Mans, comme depuis début de saison où c'est lui qui est souvent là pour marquer les buts. Après, sur l'égalisation de Boulogne, ce qui est un peu dommage, c'est que le gardien du Mans, il s'est blessé sur l'action d'avant, et ayant déjà eu 3 changements pour le Mans, il a pas pu sortir, et sur le centre, il peut pas faire sa sortie comme il l'aurait fait habituellement, et ça amène l'égalisation.
Ouais, d'ailleurs, Ovono, qui est un peu fantasque, hein, comme gardien, il fait, ce mec-là, c'est, j'ai l'impression que c'est un peu le Jérôme Alonso en black, quoi. Il capte aucun ballon, mais par contre, il fait pas mal d'arrêts, quoi. Mais, il est capable aussi de faire des sorties, n'importe comment. Je sais pas si tu te souviens, je crois que c'était aussi contre Sochaux, où il a défoncé totalement Tulane, qui a eu 11 points de soutir derrière, qui avait la tête défoncée. Donc voilà, Ovono, je sais pas trop s'il a un cerveau, en tout cas, c'est un bon gardien, mais qui doit te faire pas mal de frayeurs, je pense.
Ah bah, il fait dans le spectaculaire. Hein.
Ah, voilà, c'est ça. Mais ça, c'est pas très rassurant, voilà, quoi. Parce qu'à mon avis, il fera des cagades d'ici la fin de la saison.
Ah bah, il y a déjà eu des fois où il s'est troué et on a manqué de se prendre des buts à cause de lui, quoi.
Ouais, voilà. Oui. Et sinon, qu'est-ce que t'en penses de, bah, justement, de Duarte? Comme entraîneur, c'est quoi ton avis sur lui? Est-ce que t'aimes bien sa personnalité? Là, je crois qu'il va se faire sanctionner bientôt. Encore, j'ai l'impression.
Ouais. Il va se faire sanctionner encore une fois, mais après au niveau de sa personnalité, c'est vrai qu'on a été habitué avec des entraîneurs comme Frédéric Hans, qui était très gueulard au niveau de l'entraînement. Après, il y a eu Rudy Garcia, qui lui était plus observateur. Et là, c'est vrai qu'on a retrouvé cette année Paulo Duarte, qui au niveau de l'entraînement, il pousse les joueurs, il hésite pas à les sanctionner s'ils font pas ce qu'il faut. Mais après, au niveau du terrain, il est présent certes, mais on a du mal à un peu le cerner, en fait. C'est ça, le problème.
Ouais.
Et donc, j'ai une petite question, une petite réaction de Chris du forum, qui nous demande par rapport à Roland Lama. Est-ce qu'il apporte beaucoup à son équipe? Quel impact a-t-il dans le dispositif?
Bah, depuis le début de saison, il a beaucoup apporté, mais le seul problème, c'est qu'il est rentré tout le temps en tant que remplaçant. Il a été rarement titulaire, mais à chaque fois qu'il est rentré, c'est un joueur qui apporte le jeu vers l'avant et forcément ça aide avec des attaquants comme Elstad qui aime les ballons en profondeur ou encore des attaquants comme Mega, et forcément avec Lama en soutien, ça aide.
Moi, j'avais juste une dernière question pour je pense finir la page Le Mans. Ah, après il y aura une autre réaction de notre cher ami Chris. C'était juste un peu sur Elstad et Stromstad. J'ai l'impression que l'an dernier, ils avaient fait un bon début de saison. Et que là, bon, là, je crois qu'ils sont un peu minés par les blessures, mais j'ai l'impression que leur impact dans le jeu et leur influence dans le jeu, elle est moindre cette saison que par rapport à l'année dernière. Je sais pas ce que tu peux me dire sur ces deux. Je crois qu'ils sont norvégiens.
Ouais, c'est ça, ils sont norvégiens. Et, c'est sûr que la saison dernière, ils ont fait une bonne saison. Et je crois que le fait d'être arrivé au Mans à la suite de leur saison, dans leur club respectif, ils ont eu 2 semaines de repos chacun, et dans le coup ils ont enchaîné avec la saison de Ligue 1 et les blessures sont arrivées plus vite en fin de saison. Et là cette année on retrouve un Elstad assez conquérant, mais par contre Stromstad il est souvent blessé et pour l'instant il a pas souvent joué.
Il a énormément.
Ouais, voilà,
c'est Elstad ou Stromstad?
Stromstad qui est souvent blessé.
Celui qui a mis le but face à Paris, c'est Elstad ou Stromstad?
C'est Elstad.
Merci pour cette
précision. Elstad, c'est l'attaquant et Stromstad, c'est le milieu de terrain. Milieu. Voilà, c'est ça, non? Ouais, voilà.
Exact.
Ok. Bah, merci, voilà. En tout cas.
Et ben voilà, par rapport au The Viking et par rapport au Mans, comment tu sens le reste de la saison à venir, toi, Johan?
Et ben, pour l'instant, on n'est pas trop rassuré, sachant que là, on a un déplacement à Bordeaux et à Nice. Mais après, avec des matchs qui vont arriver comme Valenciennes, on sait jamais. On peut espérer encore prendre des points. On se dit que là, il y a quand même des grosses équipes qui vont être passées d'ici un mois. Et après, faudra prendre les points où on pourra les prendre.
C'est clair. D'accord.
Et moi, j'avais juste une dernière question à propos du Mans, mais un peu plus global. Est-ce que tu regrettes pas justement, bah, par exemple, à l'image d'un Lorient hein, qui s'est fait, on va pas dire piller ses joueurs, mais qui a perdu Jalès, Yanni et Abriel. Bah là, c'est un peu le cas, c'est un peu plusieurs saisons, ils se sont piqués, leurs meilleurs éléments s'en vont progressivement. Mais on a l'impression que depuis la saison dernière, bah, ils ont plus de mal, justement, à dégoter les nouveaux talents, hein, parce que je crois que Jean Dupeux, il était surtout connu pour ses talents de dénicheur, justement, de petites perles un peu inconnues, et qu'après, bah, elles devenaient fortes. Et là, on a l'impression que, bah, depuis déjà la saison dernière et cette saison, bah, Lorient a du mal et on a l'impression quand même que collectivement c'est beaucoup moins fort que les années précédentes. Est-ce que tu regrettes pas un peu cette baisse de niveau alors que justement Le Mans bah, va vers un nouveau stade et tout, mais on a l'impression que, bah, Le Mans, ça se trouve, ça sera le nouveau stade en Ligue 2 et ça sera un peu dramatique.
Bah, c'est un peu la chose qui fait peur au Mans, mais c'est sûr que la saison dernière, on a perdu quand même 6 joueurs qui étaient, pour ainsi dire, tout le temps titulaires. Cette année encore 4. Et au niveau du recrutement, ils prennent du monde de la CFA. Certes, ils recrutent un ou deux joueurs qui viennent d'autres clubs, mais après, au niveau du boulot de Jean Dupeux, cette année, par exemple, ça n'a pas été très efficace. C'est un peu ça le souci.
Ouais, voilà, j'ai un peu l'impression que c'est un recrutement qui vire un peu à la lyonnaise, si on pourrait dire, enfin, à la lyonnaise ces deux dernières saisons, même si cette saison, c'est un petit peu mieux. Et c'est vrai que bah, ça, c'est un peu inquiétant pour Le Mans, quoi. Je pense que ça va se battre pour le maintien, que ça va être compliqué.
Voilà. Ah, c'est sûr que pour le maintien, là, ça commence à être compliqué, mais bon, on va se battre, rien n'est perdu.
D'accord. Et ben voilà. Merci pour ce petit dossier sur Le Mans. Sur Le Mans, HUC, Union 72. Donc voilà, Le Mans qui pointe à l'heure actuelle à la 17e place du classement, on le rappelle, à égalité de points avec Nice, le 19e. Donc Le Mans, premier non relégable, mais attention, parce que ça chauffe derrière. Voilà. Donc on va tout de suite passer. On déroule, on défile la liste des sujets et on passe tout de suite au PSG. Voilà, on va parler du PSG, le PSG qui peut-être, est-ce qu'on pourrait parler de crise à l'heure actuelle? Le PSG qui enchaîne encore une défaite avec, encore un match sans victoire avec cette défaite à Toulouse, 1-0. Donc voilà, on va tout de suite parler du PSG.
Tu es un vrai passionné? Le foot n'a pas de secret pour toi? Viens rejoindre l'équipe de Génération Soccer.
Voilà, si tu es un vrai passionné, si le foot n'a pas de secret pour toi, viens rejoindre l'équipe de Génération Soccer, c'est clair, net et précis. Donc venez, si bien sûr, si vous avez connaissance nécessaire, on passe tout de suite à Paris, à le Paris Saint-Germain. Donc c'est très difficile en ce moment, la période du PSG qui n'a pas gagné depuis 4 journées. Et il y a encore 2 déplacement de suite pour le PSG, dont un à Marseille pour le classique dimanche prochain. Mais d'ici là, le PSG aura récupéré l'attaquant Erding. On rappelle que Guillaume Moiro est blessé. Il s'est blessé pour 2 mois hier contre Toulouse. Donc voilà, absence de Haro. Et Erding sera là pour le match contre l'OM. Donc est-ce qu'on peut parler de crise pour le PSG, Adrien?
Déjà, je te modifie juste, c'est 5 journées sans victoire et non pas 4. Voilà.
Voilà, excuse-moi. 5.
Voilà. Est-ce qu'on peut parler de crise? Je sais pas, parce que, on va dire, enfin, la crise commence à arriver petit à petit. 5 matchs sans victoire, ça commence à faire beaucoup quand même. Donc, 2 défaites, 3 matchs nuls. Je sais pas, l'équipe joue pas aussi bien qu'on pouvait l'espérer. Bizarrement, on gagne plus depuis que Erding n'est plus là. Donc, c'est un petit peu embêtant. J'espère que, surtout face à Marseille, nous fera un petit peu de bien. Mais bon, on attendait un duo Erding-Moiro devant. Après 10 journées, on l'a toujours pas eu. On l'aura toujours pas avant 2012. Donc, c'est bizarre, complètement sur un duo d'attaquants et qu'on n'aura pas avant 1 voire 2 mois, donc c'est un petit peu embêtant. Après, on voit la limite de l'effectif du PSG. Ceux qu'on voit le banc d'hier soir, on voit qu'on a Jean-Yves Maurice, Loris Arnaud, Sangaré, des trucs comme ça, et c'est pas du tout à la hauteur du PSG. C'est...
Si, mais de la réserve.
Comment?
Si, mais en réserve.
Ouais. Bon, voilà, enfin, oui. C'est un petit peu embêtant parce que ça montre nos limites. Donc on va voir comment ça va se passer face à Marseille parce que c'est un match comme les autres. Donc on sait que Paris est capable de gagner. Donc même avec une équipe pourrie qu'on ne joue pas bien depuis 5-6 matchs, et on est capable de battre l'OM. Donc tout peut arriver. Après après, concernant un modular, je veux parler de TCU, on ne prend rien sur un terrain. Ils ne font plus rien depuis un match face au Mans, je crois. Ouais. Ils ne font plus rien. Et c'est vraiment la calamité, ce mec. Toute l'équipe était vraiment à la traîne hier. Même pas ressortir un joueur, c'était efficace. Peut-être Jallet.
D'accord. Alors, vas-y, Adrien. Valentin, pardon, tu voulais réagir.
Moi, je pense quand même que le match contre l'OM dimanche prochain, il est pas forcément importantissime dans l'argument. Est-ce que c'est une crise ou pas? Parce que s'il y a une défaite du PSG, à mon avis, ça ne sera pas vraiment synonyme de crise, ni une victoire qui sera synonyme de regain. Parce que le classique, comme on veut l'appeler en France, c'est pas vraiment un match. C'est un match trop particulier pour être vraiment aligné avec des matchs contre que ce soit Toulouse, Boulogne ou bien même Lyon. Même Lyon, c'est trop différent le PSG-OM. Donc
t'as un avant PSG-OM, un après PSG-OM en fait.
Ah ouais. À mon avis, ce PSG-OM, faut pas en tenir compte. Dans le calendrier, dans la série parisienne, c'est ce qui se passe avant et après ce match qui sera important. Donc faut vraiment le PSG-OM, tu peux peut-être te concentrer dedans, l'utiliser pour la motivation, mais c'est pas forcément sur ce match que tu vas jouer ta saison. Et c'est presque trop exhibition que pour en vraiment faire partie du championnat.
Ouais, mais c'est hyper important pour une équipe comme Paris, c'est très important de remporter ce genre de match. Ça peut nous relancer, ça peut nous casser, hein. Tu sais, c'est peut-être un match différent des autres, mais bon, après le match face à Lyon, j'ai cru que ça allait nous relancer. Au contraire, on a produit du beau jeu ce soir-là, mais au contraire, ça nous a cassé dans notre plan, et puis après, on n'a plus rien fait, mais après, je sais pas si ça va changer quelque chose. D'ailleurs, qu'on voudrait changer la manière, le dispositif de jeu face à Marseille. Ça va donner, donc, on verra bien.
Ouais, enfin, au-delà du contexte, de tout ce que ce match peut apporter ou peut être abordé dans les têtes, ça reste un match à 3 points, quoi. Ça reste un match du championnat. Donc, au vu de la série actuelle du PSG, on peut quand même pas négliger ce match, ça reste un match important comptablement, quoi.
Ah oui, ça reste super important parce qu'après on a un déplacement à Sochaux qui est sur une bonne dynamique d'ailleurs. Donc si on rapporte pas un point, enfin, déjà la calamité, moi, enfin déjà après le match d'hier soir, je me dis que moi je le vends entre nous, enfin qu'on joue à niveau de jeu de l'équipe depuis 3-4 matchs, je dis que ça permet qu'on va jouer la 10e place, c'est sûr, et puis. Je ne vois pas dans les 5 premiers. Ça,
D'ailleurs, Adrien est en plein test des micros dans les baignoires maintenant. Voilà, c'est un nouveau concept. Il prend son bain et il participe à l'émission.
Parce qu'on t'entend crasseux, comme on l'aime.
Voilà. Donc, excuse-moi Adrien, et il me semble que j'ai coupé Fab.
Non, tu m'as pas coupé, mais t'avais juste à me lancer, donc c'est très bien. Moi, je voulais réagir par rapport à ce que tu disais, Adrien, et surtout reprendre un peu plus globalement et ressortir un peu du match, du prochain match face à l'Olympique de Marseille, parce que j'ai l'impression, et là, je voudrais pas faire le tableau sombre, mais j'ai l'impression qu'il est très sombre, ce tableau au PSG, qu'il y a plein de problèmes partout. Déjà, j'ai l'impression, bon, après, tu l'as un peu dit, que toute l'équipe hier a pas fait un bon match. Mais c'est clair que moi, quand je vois l'attaque hier, Ndoula, ok, fait une bonne première mi-temps, mais d'ailleurs, c'est pas terrible. Juli, il a plus de jambes, il est carbonisé, il est cramé, il est fini.
Pourtant, pour te couper 30 secondes, pourtant, Ndoula a fait un très très bon début de saison, en étant la dernière victoire du PSG, et en effectuant une très bonne préparation. Franchement, il n'avait pas été mauvais depuis le début de saison. C'était une des grosses satisfactions. Au début de saison, mais je t'avoue que hier soir, il a été inexistant, il a été vraiment un chier.
Voilà, mais après, au-delà de ce problème offensif, c'est clair que t'as pas Erding ou Haro, mais après, les doublures, elles sont pas non plus terribles. Mais après, il y a d'autres problèmes. Quand tu vois un mec, bon, je pense qu'il a été suffisamment taillé pour que je le retaille, mais comme Ngoyi, qui a fait un match à chier, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là, alors que t'as Chantôme qui est là sur le banc. Et surtout, que t'as un mec déjà comme Clément qui s'occupe de la récupération. Donc ça sert à rien d'en avoir deux, t'as Chantôme qui peut jouer relayeur. Et après, quand tu vois un mec comme Sami Traoré, qui le mec, on sait très bien, on connaît ses lacunes défensives et on continue à le mettre. Donc, c'est clair que c'est là que tu vois que Paris n'a pas de banc et que ça fait peur. Mais moi, j'ai l'impression que hier Paris a perdu, mais il y a aussi Comboiré qui a perdu. Parce que les joueurs qu'il a mis sur le terrain, je suis pas sûr que c'était les mieux à même de réaliser une performance. Le schéma tactique, j'ai l'impression que son 4-4-2, il est bien pourrave depuis le début de la saison. Et ses remplacements qu'il fait à tout le temps sortir, ben ça, j'ai entendu sur RMC, c'est totalement véridique. À sortir Seara à chaque fois pour faire reculer Jallet, je comprends pas aussi, quoi. Alors que Seara, c'est un des meilleurs Parisiens maintenant, quoi. Voilà.
Il est bon, mais bon, c'était hier soir, on l'a fait sortir pour essayer, hein, pour apporter un vent de un élan offensif, mais bon, quoi, entre Sankaré, Fantôme, je vois pas vraiment à quoi ça sert, étant donné que Sankaré et Fantôme, c'est vraiment pas ça. Moi, j'aurais pas pensé à ça pour effectuer un choix offensif, j'aurais plutôt mis Maurice, même si c'est une brêle, j'aurais plutôt mis...
Bah ouais, mais voilà, mais tu mets Maurice qui est une brêle, comparé à Chantôme, même si beaucoup le taille, c'est pas, on va dire, c'est pas une brêle, quoi. Donc, moi, je préfère mettre une valeur un peu plus sûre qu'une brêle confirmée comme Jean-Luc Maurice. Enfin, je dis pas que c'est une brêle, on va pas juger trop vite, mais pour l'instant, il a pas la carrure de la ligne, hein, ça c'est clair.
Et même, j'aurais plus sorti Armand qui est à... C'est à cause de nous qu'on se prend le but d'ailleurs, mais j'aurais pu sortir Armand que Thiara, je pense. Parce que t'en penses.
De quoi t'aurais pu. Bah ouais, non, mais de toute façon, ouais, faire sortir Seara pour moi ça n'a aucun sens, mais le pire c'est que Comboiré il a fait ça plusieurs fois. Et après, pour en revenir à Armand, c'est clair que Armand lui non plus n'est pas aussi irréprochable depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, c'est un des leaders parisiens, mais enfin voilà. Quand tu vois que c'est lui le leader, enfin que ça doit être lui le leader du vestiaire du PSG, ça fait peur, quoi. Parce que franchement, je le trouve pas très grande gueule, etc., quoi. Donc ça fait un peu peur, quoi. Bon après, c'est clair qu'il y a Mathieu et Julie aussi qui doivent prendre le relais. Mais voilà, quoi. Moi, cette équipe du PSG, de toute façon, bon ça, je pense que tu le sais, elle m'a jamais emballé. Mais là, franchement, quand je la vois jouer et évoluer, et les joueurs qu'il y a, ça m'emballe pas, quoi.
Pour te reprendre sur Armand, déjà face à Monaco, c'est lui qui est responsable sur le but, hein, de mener les cheveux. Il est responsable sur un des deux buts.
Déjà. Ah ouais, tout à fait. Sur le but de Park, je crois, là, où ça passe, où Park passe par le côté gauche.
Voilà, donc, ça montre que chacune des jeunes là, il était exceptionnel. À mon avis, on aurait dû changer tout le côté gauche, parce que c'est un petit jeune, là, qui s'appelle Mahenda, qui est loin d'être mauvais, et qui, en fait, ne donne pas sa chance. À mon avis, faudrait le tester, face à Sochaux, une connerie comme ça. À mon avis, il donnerait une bonne impression parce que il avait joué l'année dernière en Coupe de FA face à Wolfsburg. Il avait été plus que pas mauvais, donc à mon avis, faudrait le mettre un jour, mais il n'introduit jamais dans le groupe, donc je comprends pas trop.
Yacb. Ouais, bah, un peu comme disait Fab. On a beaucoup parlé, quand on parlait de Paris, de leur banc, leur manque de profondeur de banc. Mais au-delà de ça, quand je regarde les titulaires, les joueurs sur vraiment les joueurs sur lesquels le PSG s'appuie, il y a vraiment beaucoup trop de joueurs qui manquent de régularité. Quand on voit Cessegnon, Makelele, Clément, Julie, qui sont vraiment des cadres, des joueurs qui se doivent de tirer l'équipe vers le haut à chaque match. C'est beaucoup trop irrégulier pour jouer le très haut de tableau à mon goût. Au-delà du banc, je pense que c'est le gros problème de Paris et ce qui fait que ce sera dur à mon goût, hein, franchement.
Ouais, non mais je ne vois pas finir à une place dans les 5 premiers comme on aurait pu l'espérer dès nos 4 premiers matchs, hein. C'est impossible, mais je ne compte même pas sur ce saignon. Je ne branle rien depuis le début de la saison, je te dis qu'il ne branle rien. Déjà hier, il a un tout petit peu responsable aussi du but parce que je regardais l'action, il laisse partir Ebondo sur l'action du but à 1 mètre de lui. Il le laisse partir, il n'en a rien à foutre du recul défensif. Et c'est en partie aussi à cause de lui qu'on se prend le but. Mais depuis le début de la saison, il faut rien. Sinon, il est sur la même dynamique que la fin de la saison. Et il peut partir s'il veut se casser à l'étranger, qu'il se casse parce que si on touche 20 millions d'euros, ça nous fera du bien, on pourra recruter quelqu'un.
Ah non mais là si tu penses vendre Cessegnon 20 millions d'euros à moins que ça soit Manchester City, je pense pas que les gens ils vont mettre 20 millions d'euros hein. Parce que faut pas se leurrer hein, les clubs ils sont pas non plus totalement clairs. Ils voient bien que Cessegnon il a fait une fin de saison de merde et un début de saison de merde. Tu vas voir que bizarrement il y aura beaucoup moins de gros clubs au portillon et que les Chelsea
ça dépend si Lyon le veut. Ça dépend si Oles le veut.
Ouais, Oles il en a pas besoin à mon avis. Hein.
Non mais après au-delà de ça, moi, tu vois quand tu dis que quand tu disais Yacb, je crois qu'on te surnomme comme ça. que tu disais justement que quand tu voyais les titulaires du Paris Saint-Germain et que ça t'emballait pas trop, mais peut-être aussi que c'est dû à la mauvaise utilisation de Comboiré, justement, de ces joueurs cadres. Quand tu vois justement et que tout le monde crache sur ses saignons, et c'est vrai que moi je suis pas le dernier aussi un peu à cracher sur ses saignons, mais voilà, il joue sur le côté gauche. Depuis le début, il dit qu'il n'aime pas jouer sur ce côté-là, et Comboiré, le problème c'est que le mec, normalement, c'est le leader technique, c'est lui qui doit faire le jeu, qui doit animer le jeu. C'est le seul quasiment qui est capable de dribbler plein de joueurs, capable de faire du mouvement, de créer des espaces, etc., des décalages. Et le mec, tu le mets pas au poste qu'il veut. Alors, ok, après, tu vas dire qu'il fait sa star. Mais voilà, quoi, il faut le mettre au poste qu'il veut, c'est tout.
Et derrière, il joue au même poste. Il joue à droite, Le Guen le faisait jouer à droite. Et pourtant, il était loin d'être mauvais. Je me souviens encore d'un match à Lyon où il jouait milieu droit, il a mis la misère pendant tout le match. Et c'est un problème, je sais pas si c'est son problème à lui, il veut pas bouger son cul sur le terrain. Il rate ce qu'il entreprend, il en prend pas une. Je sais pas ce qu'il a, mais pourtant, là, il jouait à gauche ou à droite, c'était le même rendement, il jouait très bien. Là, on le fait jouer au même poste, il joue comme une merde. Je sais pas ce qu'il a, quoi.
Ouais, mais je pense qu'il y a un problème autour du cas Cessignon, et moi, je suis pas sûr que ça passe très bien entre lui et Comboiré, et ça va virer au clash et à la merde, quoi. Et après, voilà, quoi, donc, Comboiré, je pense que faire le dur, et ça a marché un temps, mais là, va falloir que lui aussi se remette en question, parce que je pense que, comme ça se disait aussi sur les différentes radios, les autres radios concurrentes de Génération Soccer, voilà, quoi, Comboiré, il a eu son petit état de grâce, mais maintenant c'est à lui de faire ses preuves aussi, quoi.
Non, mais c'est vrai que le recrutement au début était payant, étant donné que Couteux avait fait un bon début de saison, Jarret aussi faisait des entrées convaincantes, et que Harding était décisif. Mais quand tu vois l'équipe qu'on a mis hier, c'est quasiment la même que l'année dernière. À la seule différence de Coupé et de Jalet, t'as rien qui est différent. Donc, si on est sur la même dynamique que la fin de la saison dernière, c'est quasiment normal. Et juste parce qu'on a, étant donné qu'on a recruté que 3 joueurs l'année dernière, et qu'il y en a un qui est déjà blessé, c'est ce joueur qui est blessé, c'est celui sur lequel on a mis 9 millions d'euros, c'est là que tu vois qu'il y a un problème.
D'accord.
Ouais. En tout cas, je pense que, ouais, on pourrait parler des heures du Cassé Seignon, mais pour moi,
oui, c'est clair.
C'est vrai qu'il a un sale caractère et tout, et que ça on peut pas passer outre, mais j'ai l'impression qu'on le met pas dans toutes les meilleures conditions, et qu'il y a une petite résistance du côté de Comboiré à céder aux caprices de Cessignon, alors qu'il faudrait peut-être que les deux fassent un effort, quoi.
Au moins il savait l'utiliser, hein.
Comment?
Au moins il savait l'utiliser.
Ouais, mais bon, au moins, c'est différent du PSG, quoi, j'ai envie de dire. Si tu veux le mettre à son poste en numéro 10, faut complètement changer le dispositif, je vois pas du tout.
Mais justement, est-ce qu'un grand joueur, ça mérite pas un dispositif pour lui? Enfin, j'en sais rien, de construire l'équipe autour de lui, quoi.
Le Seignon, c'est pas un grand joueur depuis de la saison, il fait rien. Pour moi, il mérite même pas une place de titulaire. Pour le moment, il mérite même pas d'être là, donc pour moi...
c'est pas un grand joueur, mais je veux dire, c'est le meilleur joueur, enfin, il l'a trop montré l'année dernière pour qu'on puisse le contredire. Mais c'est le joueur qui peut faire plein de différences au PSG. Parce que franchement, je te dis, il n'y aurait pas eu ces saignons la saison dernière, je sais pas à la combien tième place vous auriez fini, hein. Franchement.
Ça, je suis complètement d'accord, mais l'année dernière, il joue au même poste. Tu peux me dire, quelle est la différence entre l'année dernière et cette année? Pourquoi cette année il joue mal à ce poste-là? Et l'année dernière, il joue bien à ce poste-là, je comprends pas. Explique-moi, hein.
Jouer côté droit, c'est pas tout à fait la même chose que côté gauche, quand même. C'est pas les mêmes repères, t'as pas les mêmes angles de passe, etc. Mais moi, ouais, je suis d'accord avec Fab. Au-delà de ça, je trouve le système, là, le 4-4-2 à plat, système merdique, surtout quand t'as Clément et Makelele, il faut un joueur pour remonter les ballons. Enfin, moi, je pense quand même que Paris a besoin d'un bon Cessignon, et ça me paraît indispensable vraiment de le mettre dans les meilleures conditions, quoi. On sait que sa meilleure place, c'est dans l'axe. Il faut l'essayer dans l'axe, franchement.
Je sais bien, mais dans ce cas-là, faut complètement changer de dispositif, mais je vois pas du tout comment Comboiré peut changer de dispositif, à moins qu'on joue en 4-3-3 avec un récupérateur. Un récupérateur, c'est trop léger. parce que Clément ou Makelele, tout ça tient pas la barre, ça sera pour l'eau, au bout d'une temps, c'est mort. Après, si tu veux jouer en 4-5-1, je vois pas un mec comme Erdin ou Billy passer le match tout seul devant, ou un mec comme Ndoula passer le match tout seul devant. Je vois pas ça.
Ouais, je suis pas convaincu que ce serait pire qu'actuellement, quoi. Mais surtout, ouais, ce qu'il faut, c'est essayer, quoi, parce qu'actuellement, franchement, ça va pas.
De toute façon, on pourrait à dire qu'il voulait changer de dispositif, peut-être face à Marseille. Un 4-3-3, comme il avait mis face à Lyon, ça avait super bien marché. Mais bizarrement, il n'y avait pas assez nous qu'on avait bien joué ce soir-là. Je sais pas.
On est parti de débat par rapport à la possible crise du PSG. On est allé loin, là. On est même là en train de chercher les causes de cette crise, voire peut-être les solutions. Et ben voilà, on a beaucoup parlé de Paris. Je pense qu'on est d'accord là. On a fait un très grand tour. Pour reprendre à l'aide, on va pouvoir changer de sujet, messieurs. On va pouvoir passer de, on va partir de la Ligue 1, on va s'envoler pas très loin. On reste en France. On va parler de l'équipe de France et le tirage des barrages qui s'est déroulé tout à l'heure à 14h. Voilà, on va parler des tirages. Il n'y aura pas de jingle, donc on va tout de suite enchaîner sur les tirages. Et ben, l'équipe de
intégrale.
France. Oui. Ah oui, et pas seulement l'équipe de France. Alors, l'équipe de France, donc, on va commencer par l'EDF, qui rencontrera l'Irlande en barrage. Donc, ça a été tiré au sort tout à l'heure au siège de la FIFA. Donc, ça réunissait les 8 meilleurs deuxième d'Europe. Donc le 14 novembre, ça sera le match aller à Dublin, et le 18 novembre, le match retour, sûrement au Stade de France, à moins que la FFF
à Guingamp,
oui, parce que l'ambiance était géniale, il paraît. Donc voilà. J'entends beaucoup parler de l'Irlande comme l'équipe de France n'aurait pas dû rencontrer, par exemple, enfin l'équipe la plus dangereuse à rencontrer, que c'est un mauvais tirage pour l'équipe de France. On va en revenir plus tard là, mais moi je suis pas du tout d'accord. Donc au niveau de l'histoire entre ces deux équipes, c'est l'Irlande, c'est l'équipe que l'équipe de France a le plus rencontré. Donc dans ces équipes que l'équipe de France était susceptible de jouer, donc je sais que la France a battu l'Irlande 5 fois, 4 matchs nuls et 4 défaites. On se souvient du dernier match à Dublin, avec un sublime but de Thierry Henry, et il me semble que c'était lors de ce match-là que d'ailleurs c'était très tendu pour la qualification pour la Coupe du Monde 2006, et ça avait tout relancé. Donc voilà, ça s'était déroulé à London Road. Comment ?
C'était quand il y avait le groupe entre la Suisse, la France, l'Irlande et l'Israël.
Voilà.
Toutes ces équipes entre elles, ils faisaient match nul. Et comme la France a réussi à gagner contre une de ses adversaires directs, et ben ils étaient passés directement.
Voilà.
Exactement. Et ce match quand même restera comme l'unique match, ou bien en tout cas un des seuls matchs où on a pu voir l'équipe de France avoir la main sur le cœur pendant l'hymne national, parce que Gérard Daon avait fait une blague à...
On s'en rappelle, c'est vrai. On s'en rappelle.
Et à mon avis, les humoristes et tout vont s'en rappeler, hein. On pourrait assister. Ah si, franchement, hein. C'est des trucs comme ça, on sait jamais, quoi. Ce serait marrant, en tout cas.
Pourquoi pas. Donc, je disais que le match s'était déroulé à London Road, et ben le prochain, normalement, ça sera à Croke Park. Voilà, le match, le stade de l'équipe de rugby, il me semble.
C'est
si
ça.
Je me trompe pas. Exactement, voilà. Donc voilà pour France-Irlande. France-Irlande, au niveau de l'équipe type, pour vous situer un peu, l'équipe type de l'Irlande, c'est donc Given, O'Shea, Dunn, Ledger, St. Ledger de Middlesbrough, Kilbane, au milieu Duff, Andrews, Whelan, McGeady, et en attaque Robbie Keane et Kevin Doyle. Donc l'Irlande qui est 34e au classement FIFA, 3 places devant l'Algérie, voilà, pour la petite info. Et donc entraîné par Giovanni Trapattoni, tu le connais bien, Valentin, toi qui es d'origine italienne. Enfin, je sais même pas si. Enfin, toi qui connais bien le championnat italien, donc voilà, Giovanni Trapattoni qui est l'entraîneur de l'Irlande depuis 2008.
L'équipe d'Irlande, ouais, qui est entraînée par Giovanni Trapattoni. Et donc, qui est une équipe d'Irlande qui a fait pendant ses barrages une campagne plutôt correcte, puisqu'elle a fini deuxième derrière le champion du monde en titre, l'Italie. Deuxième avec un match nul deux matchs nuls, un en Italie, un en Irlande, qui est une équipe qui mise beaucoup sur sa solidité. Et donc franchement, ça peut être l'équipe sur laquelle l'équipe de France peut bêter durant quelques longues minutes, mais en réussissant un petit exploit technique. Par exemple, on votera beaucoup peut-être pendant ce match sur un Riri, sur un Benzema pour pouvoir prendre à défaut la défense et aller tromper Given. D'ailleurs, c'était sur un exploit individuel que la France avait gagné il y a de ça maintenant 4 ans, quand Henri fait son superbe but. D'ailleurs, faudra peut-être évidemment compter là-dessus, compter que ce soit sur Henri, Ribéry ou Benzema pour pouvoir gagner.
Voilà. Merci Valentin.
Voilà.
Ouais. Je sais pas ce que tu as dit par rapport à l'Irlande vu que j'ai été coupé, mais Fabien qui a dû t'entendre répondra.
Voilà, bah je t'ai entendu. C'est vrai que je suis relativement d'accord avec toi, Valentin. C'est clair que sur des matchs de toute façon de cette importance-là, il faut souvent, enfin, on se replie souvent, on va dire, sur les joueurs cadres, hein, donc que t'as cité comme Henri, Ribéry ou d'autres joueurs. Après, moi, la seule chose qui me fait peur, parce que comme je le disais en off avant l'émission, pour moi, la France ne devait avoir peur dans ce tirage d'aucune équipe. C'est tombé sur l'Irlande, c'était pas forcément le meilleur tirage, c'est pas non plus le moins bon tirage, contrairement à ce qu'on peut dire. Moi, la seule chose qui me fait peur, c'est Trapattoni vs Domenech. Parce que moi, à mon avis, Trapattoni va gagner par KO, mais très facilement. Et ce qui me fait peur, c'est que voilà, le Trap, comme on le surnomme, bah voilà, je pense que c'est un tacticien, il a la culture italienne. Voilà, donc comparé à un Domenech qui est un peu, on pourrait le comparer, voilà, c'est un petit manchot français à lunettes, voilà, donc moi j'ai un peu peur qu'on souffre un peu de la comparaison et que sur ce match-là, Trapattoni étudie bien le jeu des Français, c'est clair qu'il va le faire et qu'il trouve la tactique qui nous fasse déjouer. Voilà, donc j'ai un peu peur de ça et voilà, c'est une de mes seules inquiétudes, sinon je pense quand même que la France, elle a les capacités pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Après, il faudra qu'elle prouve qu'elle a également du caractère, parce que dans l'ensemble, c'est quand même une équipe qui a des joueurs jeunes, mais qui a aussi des joueurs expérimentés. Donc pour moi, ça doit passer. J'ai peur de Trapattoni vs Domenech. Voilà.
Alors, en parlant de Trapattoni, à mon avis, on peut compter sur lui pour faire monter la pression bien avant le match. C'est un Italien, ils savent bien faire ça. Et Domenech, dans ses déclarations, c'est vraiment pas le meilleur pour répondre. Rien que quand il a réagi par rapport au tirage, comme d'habitude, il a négligé son adversaire en disant que c'était pas l'adversaire, c'était pas le plus important, que après, c'est la qualification, blablabla, blablabla. Et comme d'habitude, il va minimiser les choses et c'est vraiment pas c'est pas ce qu'il y a à faire pour mettre les joueurs en confiance avant un match comme celui-là.
Oui.
Mais ça c'est clair, hein. De toute façon, comme je voulais dire, mais Romeo McPenan, mais voilà, Domenech a dit que l'Irlande, c'était l'Angleterre bis, il a pas totalement tort. Enfin, il a pas raison, parce que c'est juste que les joueurs jouent en première ligue. Donc, dans ce cas-là, la France, c'est quoi, là? Enfin, il y a des joueurs de Ligue 1 qui jouent en équipe de France, mais la France, c'est l'Europe. C'est l'Europe bis. Voilà. Donc, des raisonnements à 2 francs, 6 sous comme ça, on s'en passerait bien. Et c'est clair que, comme tu l'as dit, Trapattoni, forcément, il va faire sa petite guerre médiatique contre Domenech. Et, j'espère que Domenech va avoir l'intelligence de ne pas trop lui répondre, en tout cas de lui répondre intelligemment, et pas à la manière gros lourdingue, gros français, comme il l'a déjà fait cet après-midi, voilà.
D'accord. Merci, merci GG pour ce petit coup de gueule par rapport à la réaction de Trapattoni. Yak,
vas-y. Oui.
Oui.
Ouais, non,
excuse-moi.
Pardon?
Tu ne voulais pas réagir par rapport à
par rapport à ce que tu disais sur Trapattoni, Domenech. Bah après, c'est toujours pareil, hein, ils sont pas sur le terrain. Domenech, on sait ce qu'on sait dans la presse, qu'on lise ou qu'on lise pas ce qu'il dit, c'est pareil. Mm-hmm. C'est des déclarations complètement inutiles. Bon, après, il y a un truc, les Irlandais, c'est vraiment des guerriers. Et ça, ça peut être inquiétant si on n'arrive pas à prendre l'avantage rapidement, quoi. Donc, faudra vraiment être très costaud au match aller. Et si on n'arrive pas à prendre l'avantage au match aller, vraiment faire tout pour faire la différence très rapidement à domicile au match retour. Donc à voir, hein. c'est pas faisable, mais attention quand même.
Si on fait pas le gros match en Irlande, ça va être dur au match retour, parce que je crois que c'était en 2004 où ils étaient venus jouer chez nous, il y a eu plus de 20 000 supporters irlandais. Et 2006. On les connaît, ils sont très forts pour mettre la pression, ouais, même à l'extérieur.
Ouais, non, mais oui, c'est sûr que c'est tout simplement la culture britannique. Hein. Les Écossais, c'était la même chose il y a deux ans. De toute façon, on connaît comment les Britanniques viennent voir leur équipe nationale. T'as de l'ambiance évidemment au Stade de France. T'as la bière coule à flot. T'as des chants pendant tout le match. C'est tout simplement une autre culture. Et finalement, ça marche très bien maintenant. On sait que ces dernières années, l'équipe de France n'a pas forcément eu la facilité face à l'équipe britannique, que ce soit contre l'Écosse ou l'Irlande. C'est peut-être dans un match aussi décisif que ça, ça peut être remédié maintenant. Maintenant, je sais pas si l'équipe peut vraiment être sublimée par un tel match, mais il y a intérêt que cette équipe devienne sublimée par un tel enjeu, parce que ne pas se qualifier pour la Coupe du Monde en France, ça serait évidemment vécu comme une catastrophe, comme n'importe quoi. Mais c'est donc que les joueurs ont intérêt à avoir conscience de ce qui est actuellement de se tramer sur les épaules, et finalement des Ribéry, des Benzema, des n'importe qui, on leur permettra pas le moindre écart, et c'est dans ce match où il faut démontrer que c'est vraiment une équipe et qu'ils sont solidaires et qui finalement ils veulent vraiment donner le meilleur de même à l'équipe, au pays. Et c'est un truc de toute façon qui fera froid et qui se verra sur le terrain, parce que les Irlandais, eux, ils viendront avec la rage au ventre et une qualification pour la Coupe du Monde en plus en barrage face à la France. C'est pas donné à tout le monde, et l'Irlande, ils vont essayer de le faire. Et justement, Trapattoni, ça peut évidemment aider les Irlandais. Trapattoni qui a donc cette culture tactique qui est bien différente de celle de Domenech. Et j'ai bien peur que ce match, si l'Irlande le gagne, il l'aura gagné sur cette tactique que Trapattoni tentera d'inculquer à ses joueurs.
Ouais, je pense que voilà, on est d'accord que une des clés du match, ça sera le petit duel entre Trapattoni. L'autre clé, comme tu l'as dit, c'est clair, les Irlandais auront la rage au ventre, donc forcément, il va falloir que l'équipe de France montre du caractère.
En même temps, moi, je pense qu'il faut pas trop faire un plat sur le duel Trapattoni-Domenech, parce que Domenech, avec sa tactique à lui, son idée à lui, a quand même réussi à battre des entraîneurs plutôt réputé, et c'est peut-être pas forcément l'argument à mettre en avant.
Ouais, mais bon, l'équipe était quand même différente, tu vois, t'avais vraiment des joueurs d'expérience, style Thuram, style quand même Zidane, voilà, donc après, c'est pour moi, tu vois, en plus, je sais pas si tu fais référence à des matchs surtout de la Coupe du Monde 2006, mais pour moi, c'était les joueurs avaient fait la différence, et Domenech n'avait pas à faire la différence par son coaching. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais Domenech à la Coupe du Monde 2006, c'était toujours les mêmes remplacements, par les mêmes joueurs, aux mêmes minutes. Alors que là, si tu vois, bien sûr, la question, elle va pas se poser d'un duel entre Trapp et Domenech, si l'équipe de France montre clairement, direct, d'entrée de jeu à Croke Park, qu'elle est au niveau. Mais si tu vois, ça rivalise entre les deux, et qu'il y a justement rivalité, que l'équipe de France est malmenée, à mon avis, le coaching de Domenech sera pas forcément des meilleurs, et c'est là qu'on verra une nouvelle fois ses limites. Voilà, ça, après, c'est mon avis.
Non, c'est sûr. C'est pour ça que c'est aux joueurs de vraiment prendre en main cette équipe de France, à Ribéry de prendre cette équipe de France avec lui et d'assumer son nouveau rôle de leader technique. Et de toute façon, c'est que par ça que ça pourra ça pourra véritablement marcher si le match auquel s'attend sera véritablement le match qui disputera, à savoir une Irlande vaillante mais très très regroupée derrière et qui misera beaucoup sur sa solidité, et une équipe de France qui tentera d'aller marquer un ou deux buts. Et c'est justement dans ce genre de match qu'on va voir le vrai Ribéry. S'il peut vraiment prendre en main cette équipe de France et assumer un rôle de leader, qu'il soit mental ou technique, puisqu'on sait qu'il y a quelques mois, il se disait vouloir être capitaine de l'équipe de France. C'est le match ou jamais pour lui.
C'est ce que j'allais dire, hein, parce que là, il est encore avec ses problèmes de blessure au genou, en plus qui a l'air de traîner, donc ça, c'est pas bon signe. Et franchement, voilà quoi, le 14 novembre, ça arrive vite. Et je suis pas sûr que Ribéry ait joué beaucoup de matchs d'ici là. Et s'il en joue, ça sera peut-être un ou deux. Donc voilà, ça sera un Ribéry peut-être qui aura les crocs, mais à court de forme physique. Donc ça, c'est un peu l'incertitude et c'est un peu l'inconnu, voilà. Je sais pas si on a retrouvé Roméo, on n'a pas retrouvé Roméo. Si personne va enchaîner sur l'équipe de France, je pense qu'on peut enchaîner sur les autres matchs. Justement de ces barrages, donc qui ont été déterminés aujourd'hui par tirage au sort. Donc je sais pas qui veut parler ou qui voudrait parler de Portugal-Bosnie, parce que ça c'est un choc avec Irlande, équipe de France, c'est quand même un gros choc et c'est franchement un tirage pas facile pour le Portugal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais la Bosnie, on le sait, avec plusieurs joueurs, notamment Spejic, hein, qui s'est révélé cette année, et surtout Dzeko, Misimovic, Pjanic, ça va être du difficile pour le Portugal. Voilà.
Moi je le vois pas forcément comme ça. Moi je vois surtout la Bosnie par une très très grande force offensive, donc avec Misimovic, Dzeko et Ibizevic. Mais je peux pas vraiment prétendre la connaître, mais elle me prétend vraiment pas en défense, et je pense que si un Nani ou un Cristiano Ronaldo, une des individualités offensives du Portugal, daigne jouer, daigne vouloir faire gagner de son équipe, ça sera presque une partie de plaisir au niveau offensif, parce que j'ai peur que la défense bosniaque soit assimilée à du beurre.
Ah ouais, non mais c'est clair que la défense, je crois ils se sont pris 13 buts, donc c'est un de leurs points faibles, et c'est clair que quand on voit les arguments offensifs portugais, voilà quoi, on peut se dire que le Portugal va passer facile, mais le problème c'est que dans ce cas-là, tu disais qu'ils allaient aussi assez facile dans leur groupe, même si... Enfin voilà quoi, donc même si c'était un groupe qui était pas non plus super simple, mais donc le Portugal, s'il a pas terminé premier, c'est qu'il y a bien des raisons et c'est qu'il y a bien des carences, et la Bosnie c'est pas forcément l'adversaire le plus simple pour le Portugal.
Voilà. Okay. Comme en France, c'est là où on compte sur un joueur comme Cristiano Ronaldo.
Ouais, de toute façon le Portugal compte sur l'Espagne, sur Cristiano Ronaldo, et rien que sa présence sur le terrain changerait, je pense, la mentalité et tout des joueurs quoi. Mais voilà quoi, il faut pas oublier que si Cristiano joue, ce qui est déjà pas sûr également, il aura aussi une énorme pression, et à savoir comment il va la gérer, c'est un grand joueur, mais on sait jamais. Adrien, tu voulais réagir, je crois.
Ouais, je voulais juste dire, à mon avis, si la Bosnie elle est là aussi, c'est pas pour rien qu'elle est en barrage et qu'elle a fini deuxième de son groupe. J'ai pas ce meilleur du groupe, je sais juste qu'il y avait l'Espagne, mais si elle est en barrage, c'est pas pour rien,
quand même. Il y avait la Turquie et la Belgique.
Voilà, la Turquie, c'est quand même pas n'importe quelle équipe.
À noter aussi, meilleure attaque des éliminatoires zone Europe, avec 13 buts.
Ah ouais, non mais la Bosnie, c'est quand même du lourd, hein, mais quoi qu'on en dise, la Bosnie, c'est 25 buts, donc meilleure attaque, voilà, pour ce petit jingle un peu entrecoupé, mais c'est pas grave, hein, on est sur Génération Soccer. Et donc moi ce que je veux dire, voilà, la Bosnie c'est meilleure attaque, 25 buts, mais c'est aussi des carences et des largesses défensives, comme je l'ai déjà dit, 13 buts, donc voilà quoi, face à l'attaque du Portugal, potentiel offensif du Portugal, ça fera plaisir que si Marvolo nous écoute, le potentiel, je parle bien de potentiel offensif du Portugal, ça devrait passer, ça devrait faire la différence. Mais voilà, Portugal-Bosnie, une double confrontation qui va être assez ça à regarder, et je pense qu'elle est plus indécise qu'on ne le pense sans son cas sur le papier. Donc je pense qu'on a fait le tour sur Portugal-Bosnie. Si quelqu'un veut réagir, qu'il réagisse tout de suite, sinon on va passer sur les deux dernières rencontres. Là, on pourra peut-être un peu moins développer, j'en sais rien ce que vous en pensez. Donc, les deux autres rencontres, si je me trompe pas, ce que j'ai devant les yeux, c'est Grèce, Ukraine et Russie, Slovénie. C'est cela?
Tout à fait.
Voilà, donc je sais pas si vous avez des commentaires. La Grèce, championne d'Europe, voilà, en 2004, qui se tape aussi qui se tape quand même un tirage au sort difficile face à l'Ukraine, une rencontre également qui vaudra le détour, même si c'est moins alléchant sur le papier Portugal-Bosnie. Et Russie, la Russie de Gusidin, qui pour moi devrait se qualifier, puisqu'ils ont quand même hérité sur le papier, en tout cas, de la plus faible des équipes, la Slovénie. Donc voilà.
Ouais, ça devrait passer pour la Russie. Grèce-Ukraine, ouais, ça va être intéressant comme match. L'Ukraine un peu sur le déclin, j'ai l'impression, je sais pas ce que vous en pensez, puis la Grèce ça reste la Grèce quoi.
Ouais, voilà, ça reste la Grèce. Bon, après je pense que ouais, voilà, capable de faire des perfs, mais bon, je pense que la réussite de 2004, ils l'ont eu une fois, mais après je ne suis pas sûr que il l'ait plusieurs fois à l'avenir. Et puis après après Russie-Slovénie, pour moi, il y aura pas véritablement match, je pense, entre les deux. Voilà.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Donc, et ben, puisque Roméo nous a quittés, j'ai l'impression que je vais être un peu obligé de faire l'animation, en tout cas, de cette fin d'émission. Donc, quand je regarde le programme qui avait été prévu, je vois que pour clôturer cette émission, eh bien, on a prévu de parler, de faire un petit avant-match Ligue des Champions. Donc, malheureusement, pour moi, je sais pas si quelqu'un a les matchs devant lui. Sinon, moi, je vais me les mettre devant moi tout de suite.
Mais bah sinon, alors, si quelqu'un peut prendre le relais, bah, demain.
Voilà, pour faire un peu une presse des différents matchs, voilà.
Au niveau des clubs français, donc Lyon joue à Liverpool demain soir. Mercredi, Marseille se déplace à Zurich et Bordeaux reçoit le Bayern. Voilà, donc à noter, comme on disait en début d'antenne, le forfait officiel de Torres demain pour Lyon. Donc plutôt une bonne nouvelle a priori.
Ouais, voilà, non mais c'est clair que bah Fernando Torres forfait et Gerrard aussi incertain, même si je crois que finalement bah il devrait participer à ce match. En tout cas, il est présent dans le groupe et il sera certainement présent sur la feuille de match, même s'il est un peu moins bien. C'est la Ligue des Champions, ça sera pas. Donc voilà, Lyon Lyon qui a peut-être un coup à jouer. Bon, après Lyon qui va devoir surtout montrer un tout autre visage que celui justement proposé aux spectateurs de la Ligue 1. Puisqu'ils ont, faut-il le rappeler, ils ont été défaits à domicile 2-0 face à Sochaux en championnat. Donc voilà, Lyon qui se présente pas dans les meilleures dispositions face à Liverpool, et Lyon qui rêve d'un remake de ce qu'avait fait Marseille il y a quelques saisons. Même si Claude Puel, je crois qu'il a un peu craché sur la victoire de Marseille à Liverpool il y a quelques saisons. Donc voilà, pour moi, je pense quand même que ça reste difficile, hein, parce que ça reste Liverpool. Même si Liverpool n'est pas dans une bonne passe et a perdu ce week-end face à Sunderland en championnat, ça reste Liverpool. Donc pour moi, un large avantage à Liverpool. Même si j'espère de tout cœur, en tant que supporter quand même du foot français, que Lyon tire son épingle du jeu. Puis avec des joueurs de la trempe de Lisandro, avec la vista de Bastos, etc., je pense que ça peut passer. La seule interrogation, c'est une nouvelle fois dans le secteur défensif lyonnais qui est toujours décimé.
Ouais, c'est ça, on devrait encore voir une charnière Christou-Lalan. Les retours par rapport au match de Sochaux de Kallström et Pjanic en titulaire, et puis l'attaque qui sera enfin au complet. Probablement Govou associé à Lisandro et Gomis. Donc ça peut être intéressant face à Liverpool qui reste toute compétition confondue sur 3 défaites quand même. Fiorentina, Chelsea et ce week-end à Sunderland. Sans doute qu'ils sont pas au mieux dans leur tête non plus, même s'ils sont à domicile, il y a un coup à jouer. Hein. Donc c'est jouable.
Ouais, voilà, Liverpool reste sur une mauvaise passe, mais quand on connaît Rafa Benitez, à mon avis, il a dû leur passer un sacré savon. Et puis il faut pas oublier que voilà, Liverpool depuis plusieurs saisons maintenant, c'est la tradition Ligue des Champions. Liverpool, les Reds, ils savent se sublimer dans cette compétition. Donc voilà, il faut pas se fier au visage qu'ils ont montré lors de leur dernière sortie en championnat. Et je pense que ça va être un match très difficile pour Lyon, qui a quand même ses atouts, qui a des atouts à faire valoir, mais ça reste compliqué. Donc voilà, faut pas s'enflammer, enfin faut pas faire un excès d'optimisme, mais faut pas non plus être pessimiste ou trans. Voilà. Donc Lyon a ses chances, mais ça va être très compliqué. Je pense que là on a fait le tour en disant ça. Enfin j'en sais rien, mais je pense. Voilà.
Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Hein.
Voilà, sinon, bah, on peut passer aux autres matchs. Donc, donc au match Zurich-Marseille. Donc, Zurich-Marseille, bah, c'est un peu le match de la dernière chance pour l'Olympique de Marseille, hein, qui a perdu à deux reprises face au Milan AC, face à l'AC Milan, un match qu'ils auraient dû gagner, en tout cas, enfin, qu'ils auraient dû et qu'ils auraient pu gagner, hein, franchement, le match rageant, et puis une défaite, somme toute logique, face au Real de Madrid, 3-0. Donc là, un déplacement à Zurich, après une victoire à Nancy, 3-0, ben, qui vient relancer les hommes de Didier Deschamps. Donc voilà, une bonne occasion, eh bien, de continuer à espérer un petit peu dans ce groupe, eh bien, pour l'Olympique de Marseille. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais là, avec cette victoire à Nancy en championnat, bah, l'OM se présente dans les meilleures dispositions mentales. Après, c'est vrai qu'au niveau du groupe, bah, il reste encore perturbé par des absences.
Moi, j'ai un truc sur Zurich, je crois que j'ai vu ce week-end, ils avaient gagné 7-0. Il me semble, je connais pas le niveau de l'équipe en face. Je pense que Valentin, tu vas voir ça, non?
Ouais, Valentin, t'es là? Helvetia.
Bon, je sais pas,
bref, est pas là. Donc ouais, après,
j'avais vu qu'ils avaient gagné 7-0 ce week-end, donc l'équipe du Zurich, quand même, elle est en forme, donc à mon avis, ce sera pas si facile que ça, à mon avis, de la battre. Mais bon, si Marseille développe le même niveau de jeu que celui qu'il a produit samedi face à Nancy, je pense que ça devrait passer. Une victoire de Marseille me paraît logique. Mais bon, faudra faire gaffe à Zurich, quand même, qui a battu Milan il y a trois semaines.
C'est là où je suis allé en venir. Zurich avait quand même fait l'exploit de battre le Milan sur un but que je recommande. Un but exceptionnel. Hein. Et donc voilà quoi. Donc c'est une équipe à prendre plus qu'au sérieux. En plus, aller jouer là-bas à l'extérieur, bah, c'est toujours un déplacement en Ligue des Champions. Donc voilà. Mais l'obligation pour l'OM, c'est de prendre les trois points. Ne serait-ce que pour espérer justement la qualification pour les huitièmes en Ligue des Champions, en tout cas pour continuer à espérer, mais surtout aussi pour une possibilité d'être reversé en Europa League et donc d'accrocher cette troisième place, parce que là, à mon avis, une nouvelle défaite, ça condamnerait quasiment l'Olympique de Marseille à la dernière place du groupe. Tu voulais réagir, Chris, déjà bonsoir.
Oui, je voulais réagir, une petite réaction. Le but, il avait été inscrit par le Finlandais Ami Kinen, et justement, Kinen avait joué plusieurs années à Anderlecht. Vous savez que je suis belge, enfin, vous le savez peut-être pas, mais je vous le signale. Et Anu Tinon, il forme avec son compère zurichois un axe central défensif très imposant. C'est vraiment un rock. Et à ce niveau-là, je pense que Marseille devra peut-être essayer de jouer sur sa vivacité, sa technique sur les flancs pour essayer de perturber cette équipe de Zurich, parce que l'axe défensif avec Tinon, c'est du lourd, c'est du costaud.
Voilà, donc juste avant, pour faire la précision, les flancs. Parce que je vais faire un peu la traduction, parce que Chris a du mal à s'exprimer en langage civilisé. Donc les flancs, c'est les côtés. Vas-y, Yagbé.
Ouais, enfin ça reste principe quand même, non? Mais ouais, je pense que la clé pour Marseille, Marseille aura les opportunités pour remporter le match. Hein. Ce qui fait défaut sur les deux premiers matchs et aussi sur les saisons passées, que ce soit en Europa League, en Ligue des Champions, c'est le réalisme. Marseille devra marquer sur les quelques occasions qui se procureront, sinon ça risque de faire comme d'hab, j'ai envie de dire, et ce sera plus le match avancera, plus ce sera difficile. Donc, le réalisme sera sûrement la clé du match pour moi. Mais s'ils sont réalistes, ça devrait passer, hein. Pas de raison.
Ouais, voilà. Non, mais ça, c'est clair. C'est un des points noirs de Marseille cette saison, c'est le réalisme. Hein. Je pense qu'on l'avait suffisamment souligné après le match face à Milan, où justement Milan avait donné une leçon de réalisme à l'italienne avec 2-3 occasions et 2 buts de Pippo, super Pippo Inzaghi. Là, c'est clair que d'une part le réalisme sera une des clés du match, mais je pense qu'aussi ça sera également la solidité défensive de l'OM, qui a été pas mal décriée ces derniers temps. Là, l'OM a gardé sa cage inviolée lors de la dernière rencontre face à Nancy, une charnière NBA Hilton. Je sais pas trop si quelqu'un a des informations sur la charnière qui va jouer face à Zurich, mais là aussi c'est comme pour Lyon, c'est aussi la charnière et surtout la défense globalement qui risque peut-être de poser problème à l'effectif marseillais.
Ouais, la défense également à voir. On en saura sûrement plus demain lors de l'annonce du groupe qui se déplacera, mais ce sera important à la fois d'être réaliste, c'est toujours pareil, hein, que ce soit en attaque et en défense, d'être présent. On se rappelle de ce match ahurissant la saison passée en Europa League, le match où ils se font sortir justement contre les Ukrainiens. C'est comment déjà leur équipe blindée brésilienne. Voilà, Shakhtar. Où ils avaient eu, je crois, une trentaine de tirs, une quinzaine d'occasions, ils n'avaient pas réussi à marquer. Ça passera pas, même contre le FC Zurich. Hein.
Ah non, mais ça, de toute façon, c'est clair que le fait de concrétiser au plus vite ces occasions, c'est le propre des grandes équipes, notamment à l'échelle européenne. Et ça, c'est clair que c'est un des défauts des clubs français en général, et surtout de l'OM ces dernières années. Je tiendrai d'ailleurs à souligner qu'en ce moment, Monaco a très peu d'occasions et les concrétise. Donc voilà, c'est le propre d'une grande équipe. Parenthèse terminée. Je sais pas si quelqu'un veut réagir sur ce match-là, si quelqu'un a encore une réaction. Voilà, donc Adrien qui a le groupe de l'OM, donc ça peut toujours être intéressant, donc vas-y.
Donc c'est à peu près le même groupe que face à Nancy, sauf le retour de Lucho et Heinze. Donc Lucho et Heinze font leur retour. Donc à signaler que Diawara ne fera pas partie du voyage, étant donné qu'il a été expulsé face au Real Madrid. Sinon c'est normal. C'est un groupe habituel. Donc je pense que Heinze et Hilton feront partie de la charnière centrale face à Zurich mercredi.
Ouais, voilà. Donc une nouvelle chance donnée à Hilton de prouver que le fait qu'il ait été écarté par Deschamps. Ah, Dan, ça recommence un peu le. Non, c'est bon. Écarté par Deschamps en début de rencontre n'était pas forcément justifié. Donc voilà. Et puis on peut passer au troisième match concernant les clubs français. Ça va être le match des premiers du groupe A. Le match qui va opposer Acha Bandelmas, Bordeaux, Bayern de Munich. Donc une rencontre quand même importante pour Bordeaux. J'ai envie de dire, je sais pas si la victoire est obligatoire, mais c'est clair qu'en cas de victoire en tout cas, Bordeaux ferait un bon pas vers les huitièmes de finale. En tout cas, continuerait sa bonne marche en avant en route vers les huitièmes. Mais ça va être un match pas évident vu la dynamique négative et les deux défaites sur lesquelles reste l'effectif bordelais.
Ouais, enfin, le Bayern n'est pas au top non plus. D'ailleurs, ils ont gagné ce week-end, mais à part ça, c'est vraiment pas le Bayern, pas du grand Bayern, hein, je trouve.
Ouais, à noter, c'est tombé ce soir, Robert forfait.
Voilà, en plus.
Vraiment une belle opportunité pour Bordeaux à domicile.
Il n'y a pas de Ribéry, il y a pas de Robben, ça fait quand même les deux hommes forts
Attends, il reste quand même Mario Gomez, il reste Ulrich, il reste Klose,
Leurs deux ailiers, leurs deux ailiers ne sont pas là,
c'est les deux faux-follets, ceux qui font le rythme dans les matchs et qui créent les décalages, mais après, il reste quand même du gros monde derrière. Le Bayern de Munich, c'est quand même une grosse équipe. Donc il faudra se méfier, mais c'est vrai que là ils sont toujours bons à prendre en cette période. Chris, t'avais une petite réaction.
Ouais, non, mais je confirmais ce que vous disiez, c'est vraiment le moment idéal pour jouer le Bayern, parce qu'avec tous les blessés, il y a un manque de cohésion. J'entends que l'entraîneur du Bayern est contesté parce qu'il s'est mis à dos quelques joueurs. C'est Lizarazu qui avait dit ça, je crois que c'était dans Téléfoot. Donc vraiment, c'est le moment, je pense, opportun pour Bordeaux. Il y a pas meilleur moment pour affronter cette équipe du Bayern qui est vraiment plein de doutes avec tous ses blessés. Et c'est titulaire qui apporte, parce que le Bayern fonde d'abord son jeu sur un grand collectif, mais les individualités sont très importantes dans la cohésion de ce groupe-là. Et là, effectivement, avec toutes ces blessures, tous ces blessés, c'est le bon moment pour Bordeaux. Moi, je pense que Bordeaux va faire quelque chose. Je parie sur une victoire de Bordeaux, mais on n'est pas dans un concours de pronostics. Donc voilà.
Non, mais t'as tout à fait raison. T'as un peu résumé tout ce qu'on avait dit. En ce moment, ça va pas fort du côté du Bayern. Et les méthodes, on va dire strictes et un peu vieux jeu de Louis van Gaal commencent à faire grincer des dents, avec notamment la gestion du cas Luca Toni, qui avait été écarté, qui a même joué en CFA un temps, enfin l'équivalent de la CFA du Bayern, qui finalement là est de retour dans le groupe, etc. Bah voilà quoi, ça fait que le début de saison du Bayern est pas terrible, il reste dans la mauvaise dynamique de la saison dernière. Faudra tout de même se méfier d'un joueur dont on commence à parler maintenant, Thomas Müller, non c'est pas moi qui fais le bruit, excuse-moi, une des révélations de la Bundesliga et qui commence à s'affirmer en Europe. Voilà Thomas Müller.
Très bon.
Donc voilà. Je crois qu'Adrien, t'avais une petite question.
Ouais, juste Ayek, je sais pas si Schamack il est de retour ou pas pour le match face à Bayern, ou ce sera Cavani encore.
Si Schamack, pardon, j'ai pas entendu.
Si Schamack sera dispo pour le match mercredi ou pas.
Ouais, a priori dispo, oui.
Non, parce que Cavani c'est pas la grande pointe maintenant, donc un retour de Schamack à mon avis ça vous fera du bien, surtout avec Gourcuff qui sera dispo, qui sera bien fait dispo à mon avis, ça peut. Je pense que vous aurez de bonnes chances.
Ouais, les retours de Gourcuff et Gouffran, qui étaient blessés ces dernières semaines. Donc le groupe au complet, a priori. Donc voilà. Vraiment, il y a un bon coup à jouer.
Voilà, donc je pense qu'on a fait un peu le tour sur cet avant-match, en tout cas Ligue des Champions. En tout cas spécial club français. Donc si quelqu'un veut réagir, c'est maintenant. Sinon, eh bien voilà, on va clôturer cette émission. Donc merci à tous d'y avoir participé. C'était vraiment très sympa. Merci à Chris de nous avoir rejoint en cours d'émission. Une première qui en appelle peut-être d'autres.
Ne sait-on
jamais. Et sinon, eh bien donc juste pour annoncer la grosse émission. Dimanche à partir de 20h15, ça sera l'avant-match pour le Classico du Pauvre. OM Paris Saint-Germain, donc voilà, soyez à l'écoute dès 20h15 dimanche. Voilà. Salut à tous.
Salut.
Au revoir. Ciao.